J'ai entendu parler, alors j'étais venu pour prendre mon livre.
Quel livre ?
Celui que j'ai laissé sur la cheminée avant-hier.
C'est cela, la littérature ?
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
C'est un bon livre ?
Je demande à Patricia oui ou non, et après...
Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leurs piquants, parmi les vautours qui vivent de leurs plumes.
Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question d'une secte poétique, d'un amour perdu et de littérature encore. Je vous présente La 13e heure d'Emmanuel Bayamaktam. Ce roman est paru aux éditions POL en 2022 et il a obtenu le prix Médicis. Emmanuel Bayamaktam avait également reçu en 2019 le prix du Livre Inter pour son roman Arcadie. J'avais adoré Arcadie et j'avais vraiment eu l'impression de découvrir une voix que j'ai justement retrouvée dans La 13e heure. Pourtant au départ, j'avais peur d'être déçue parce que La 13e heure reprend des thèmes et des personnages d'Arcadie et je craignais un aspect un peu répétitif. En fait, non seulement je n'ai pas été déçue, mais j'ai là encore adoré ce nouveau roman d'Emmanuel Bayamaktam. C'est un récit centré autour de la voix de trois personnages différents, Farah, Lenny et Int, qui forment une famille. Farah est une adolescente de 17 ans, Lenny, le père de Farah, est à la tête d'une communauté. Le dernier personnage est Int, une femme trans, qui est la mère de Farah. La voix de Farah est la première que le lecteur entend. La jeune fille est une adolescente intersexuée qui était déjà un personnage central dans Arcadie, mais qui est ici placée dans un autre contexte. La voix de Farah laisse place à celle de son père, Lenny, qui a créé une communauté fondée sur une liturgie poétique. Au lieu de réciter des textes religieux, les adeptes de la secte, les 13e-istes, disent des poèmes français du 19e et du début du 20e siècle, et en particulier le sonnet « Artémis » de Gérard de Nerval, dont un des vers donne le titre du roman. Le dernier personnage est celui de Int, une femme trans flamboyante qui a été le premier et le seul amour de Lenny, et Int est aussi la mère de Farah. Mais Int a mystérieusement disparu alors que Farah n'avait que quelques mois. Elle va réapparaître, tout aussi mystérieusement, au cours du roman. La 13e heure est placée sous le signe du changement, de la métamorphose. Ce sont les changements de ton, d'atmosphère, une atmosphère qui est vraiment différente en fonction des personnages. J'aime beaucoup l'aspect caustique de Farah. Cette adolescente juge ainsi le monde des adultes qui l'entourent. Pour avoir étudié scientifiquement le cheminement spirituel de 46 membres de ma confrérie, je suis en mesure de formuler le principe suivant. Les gens jugent leur corps beaucoup plus sévèrement que leur âme. Je suis même à deux doigts de penser que l'intolérance avec laquelle ils traquent leurs défauts physiques est inversement proportionnelle à leur laxisme moral. Autant ils ne supportent pas de se voir dans le miroir, autant ils se pardonnent leurs manquements et leurs faiblesses. Autant ils se sont torturés toute leur vie avec des critères de beauté impossibles à satisfaire, autant ils ont toujours trouvé qu'ils étaient largement assez honnêtes, largement assez généreux, largement assez courageux. C'est d'autant plus absurde qu'il est beaucoup plus facile de se bonifier sur le plan moral que d'améliorer une apparence ingrate. Enfin, c'est mon avis. Mais je n'empêche personne de faire du sport ou de se blanchir les dents. Et puis avec le personnage de Lenny, nous entrons dans un monde tissé de poésie, de désespoir, mais aussi d'espérance. Lorsque Lenny était jeune homme, il a rencontré Int, une femme trans magnifique qui le laisse foudroyer d'amour. Int est d'une beauté renversante, mais elle ne s'est pas donnée, elle se laisse pourtant aimer. Lenny a même l'espoir qu'ils pourront fonder une famille. Et puis Int disparaît, sans explication, laissant Lenny seul avec un bébé et son chagrin d'amour. Mais il n'est pas vraiment seul, hein, puisqu'il se trouve avec des frères et des sœurs de malheur, comme par exemple le poète Guillaume Apollinaire. Dans une interview donnée à Jean-Paul Hirsch le 20 avril 2022, Emmanuel Bayamaktam affirme « J'ai mis la poésie au cœur du récit ». C'est particulièrement vrai dans la partie consacrée à Lenny. Et j'ai aimé cette errance désespérée sur les bords de la Seine quand Lenny évoque Guillaume Apollinaire, qu'il appelle tout simplement Guillaume. Heureusement que j'ai des frères et sœurs en abandon, en dépossession et en perte brutale, à commencer par Guillaume et sa chanson du mal-aimé. Il fait beau, j'erre dans Paris, ma fille en bandoulière dans son porte-bébé suédois, et chaque octosyllabe me vrille le cerveau. Juin, ton soleil ardente lyre, fontaine ardente lyre, souviens un temps quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour, et d'éclatante ardeur. Ardeur, c'est le plus beau mot. Et que vais-je faire de la mienne, Guillaume ? Je pleure. Les gens doivent me croire fou. Quel père pleure quand son bébé rit de voir la Seine, les bateaux, les mouettes ? Il faut donc élever Farah, ce que fait Lénie avec amour, et de l'amour il en a tant à donner, qu'il fonde cette communauté, la 13e heure. Il rassemble autour de lui des gens qui ont perdu espoir, des gens tristes et paumés, auxquels il délivre un message d'amour, peu ou prou, le même message que Jésus, en plus écologiste, en plus féministe et en plus queer, comme l'expliquait sa fille Farah. Et puis, l'atmosphère change encore lorsque l'histoire d'amour est cette fois vue au travers des souvenirs de Hint, qui réapparaît brusquement dans la vie de Lenny et de Farah. Hint est une femme trans qui subjugue les hommes par sa beauté, bien sûr, mais aussi par son côté à la fois insaisissable et dramatique. Farah l'avait imaginé bien avant de l'avoir vue, sous les traits du bel acteur Miguel Bosé, travesti et chantant « Un año de amor » dans le film « Talon aiguille » d'Almodovar. Il y a quelque chose, effectivement, de très almodovarien dans le personnage de Hint. Elle est provocatrice, elle joue sur le désir qu'elle inspire, danse de manière langoureuse et passionnée dans des tenues rouges aguicheuses. Mais c'est le feu et la glace mélangés. Car comment susciter autant d'amour quand on peut en donner si peu? Voilà les réflexions que fait Hint sur l'amour. Lenny, mon amour, que je te plains d'être tombée sur moi. Car que veut dire l'amour quand on en a si peu à donner? J'aurais tellement voulu m'élever à la hauteur du tien, être un cœur innombrable au lieu d'un muscle sec. Crois-moi, le monde se divise en deux, ceux qui aimeront toujours sans ménager leur peine, et ceux qui ne disposent que d'un tout petit capital, juste assez de carburant pour la mise à feu, mais plus rien pour assurer ensuite la navigation spatiale. Si encore chacun aimait dans sa catégorie, tout irait bien. Mais les cœurs innombrables ont tendance à s'éprendre des cœurs secs. Une tendance aussi fâcheuse que tragique. Je ne sais pas si les contraires s'attirent. Ou si les champions de l'amour pêchent par optimisme, voient un défi à relever là où il n'y a que du chagrin à espérer. Mais le fait est qu'ils foncent, avec un enthousiasme qui force le respect, tout droit, vers celle ou celui qui est le moins fait pour eux. Hint, pour autant, n'est pas heureuse. Elle ne se complaît pas dans la douleur qu'elle inspire autour d'elle. Bien sûr, elle a abandonné sa fille Farah, elle s'est comportée de manière infiniment égoïste. Pourtant, je suis touchée par ce personnage et par sa lucidité mélancolique, quand elle s'imagine par exemple affirmer à Farah. Cela dit, pour ce que ça m'a apporté d'être la plus jolie, de plaire, de séduire et de briser les cœurs. Car il y a eu d'autres cœurs brisés que ton père dans mon sillage. Des hommes que j'avais prévenus de ne pas s'attacher, pourtant. Mais on sait bien que cet avertissement arrive toujours trop tard. Et oui. Il est bien trop tard lorsqu'on demande à l'autre de ne pas laisser de sentiments se déployer. Pourtant, il ne faudrait pas imaginer que le roman prend un tour tragique. Bien sûr, les chansons dont se berce Hint et les poèmes récités par Lenny racontent des amours malheureuses. Mais le roman d'Emmanuel Bayamaktam est aussi drôle et vivifiant, avec les personnages de la communauté qui sont parfois grotesques. Et puis Farah s'avère quant à elle pleine de bon sens et de force. Et si j'aime aussi particulièrement ce personnage, eh bien c'est que je partage avec elle l'amour de la littérature et des romans en particulier. Et dans la 13e heure, je me suis retrouvée parfaitement chez moi. Alors, n'allez pas imaginer que j'ai grandi dans une secte. Non, simplement, j'habite dans la grande maison, dans la grande famille de la littérature. Et les romans d'Emmanuel Bayamaktam ont cela de particulier que ce sont ce que j'appellerais des romans bibliothèques. Ils fourmillent de citations plus ou moins cachées. Ils sont une véritable tapisserie tissée de références multiples. On peut choisir de défaire les fils, de jouer au jeu des devinettes. Mais de qui donc est ce verre? Ou alors, on peut tout simplement se laisser porter par ces corps libres, vivants et métamorphes que sont les romans d'Emmanuel Bayamaktam. Alors, si comme Farah et comme moi, vous aimez la force de la fiction, les romans, surtout ne passez pas à côté de la 13e heure d'Emmanuel Bayamaktam, un roman paru chez POL en 2022. Et puis, vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.